many people.
Nothing.
Still trying to live on in the past. Those days are gone, 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 gone.
It ain't no good.
No good. You gotta stop, stop all your dreaming.
Yeah.
And live on for the future. Baby, don't look back. Don't look back, don't look back, don't look back, don't look back.
No, no.
Je trouve du changement de dessus mon passage. À tous les coups, c'est pas le même chien qui gueule à mes choses. Et puis voyons si je me souviens, voyons dans ce coin de Beauce. Il y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc je cheminerai demain? En Beauce, vous les connaissez pas. Pour que rien ne se perde, mangerai on sait quoi ces gars-là. Ils mangeraient de la merde. Le chemin c'était à leur juger la bonne terre perdue. À chaque labour ils l'ont mangé d'un sillon de charrue. Il y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Pasteur n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Sont gros aussi leurs arpents goulus d'un peu de lèpre. Mais pour chemin en est devenu mince comme une couleur. Et moi qu'avec lui sous les cieux pour poser guibole. Chemin à tout le monde, nom de Dieu, c'est mon bien qu'on me vole. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? On se met du blé sur le terrain qui retira ma route. Mais si je leur demande un bout de pain, ils m'envoient me faire foutre. Et c'est peut-être bien pour ça que je vois, à mesure que le blé monte, les épis baissent le nez devant moi comme s'ils avaient honte. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Par où donc que cheminerai demain? Oh mon beau petit chemin gris et blanc, sur le dos qui je passe. Plus qu'on me serre comme ça les flancs, car moi je veux de l'espace. Où ce que mes allumettes elles sont, dans le fond de ma panetière. Et je ferai bien reculer vos moissons, oh les mange-terre. Y avait dans le temps un beau grand chemin. Cheminot, cheminot, chemine. Aster n'est pas plus grand que ma main. Je pourrais bien l'élargir demain.
Radio Libertaire, 89,4 MHz, c'est l'heure de l'émission Les Mangeterres, comme tous les premiers lundis du mois. Nous sommes le lundi 6 juillet, oui c'est bien ça, 6 juillet, et nous allons commencer ce tour d'horizon mensuel de l'actualité avec tout de suite peut-être 2-3 textes trouvés sur de différentes sources, trouvés sur internet, d'abord pour l'entrée en matière hein, sur évidemment les conséquences sociales de la canicule avec un texte de Léonore Suède du site La Relève et la Peste du 29 juin qui nous rappelle que le bilan de la canicule qui frappe la France depuis la fin juin 2026 est tragique. Plus de 1000 personnes sont décédées en une dizaine de jours. On verra tout à l'heure hein, que le chiffre a été réévalué. Ces victimes, majoritairement des personnes âgées et des individus fragiles, ont succombé à la chaleur accumulée dans leurs appartements devenus de véritables fournaises. L'été 2026 est déjà l'été de tous les records niveau température et nous ne sommes même pas en juillet. Alors que les épisodes de canicule se multiplient, le collectif Grève des loyers a lancé une initiative citoyenne qui résonne comme un ultimatum, pas de volet, pas de loyer. Ce mouvement dénonce une réalité insupportable, la persistance des bouilloires thermiques qui transforment les logements en véritables pièges mortels. À devoir survivre dans de telles conditions ou devoir s'enfuir de son logement, les militants démontrent l'absurdité de payer un loyer. Selon une étude récente, 43% des logements français sont insuffisamment dotés en volets ou stores extérieurs. En cause, un blocage administratif ubuesque, la rigidité des règlements de copropriété qui interdit souvent la pose de stores ou de volets, la bureaucratie d'urbanisme, notamment les architectes des bâtiments de France qui freinent l'installation de protection solaire pour un logement sur trois. Le résultat est frappant, 18% des Français doivent utiliser des solutions de dernier recours comme scotcher des couvertures de survie sur leurs fenêtres pour tenter de faire baisser la température intérieure. Pourtant, les solutions concrètes sont déjà connues. L'an dernier, la Fondation pour le logement a porté une proposition de loi transpartisane baptisée « Zéro logement bouilloire ». Le texte, soutenu par une coalition solide de 150 députés issus de 8 groupes politiques différents, propose des mesures de bon sens. Reconnaître la surchauffe comme une forme de précarité énergétique, instaurer un droit pour le locataire d'imposer l'installation de protection solaire, volets, stores ou de brasseurs d'air, et lever les verrous administratifs. Témoignage. La chaleur dans mon appartement est invivable pendant les canicules. Plus de 35 degrés en continu malgré la pose de filtres solaires sur les vitres. J'ai 65 ans et chaque canicule est une épreuve pour moi. J'ai demandé de l'aide à mon propriétaire, le bailleur social Aximo, mais en vain, témoigne Isabelle. Malgré cela, le gouvernement fait preuve d'une inertie coupable en refusant d'inscrire ce texte à l'ordre du jour. Pire encore, alors que nous avons vécu la journée la plus chaude jamais enregistrée dans l'Hexagone, l'exécutif s'apprête à faire voter au Sénat un projet de loi logement dont les ambitions sont à l'opposé de l'intérêt général, à savoir remettre sur le marché locatif 700 000 passoires thermiques. Pour le collectif de militants, il est impératif d'obtenir le retrait immédiat de cette disposition et de forcer l'intégration de mesures pragmatiques pour transformer les habitations en refuges habitables face aux canicules à répétition. Dans une pétition, ils exigent l'adoption urgente de la proposition de loi zéro logement bouilloire, la simplification radicale des règles d'urbanisme, la création d'un droit à la suspension du loyer pour les logements invivables. Sur cette inadaptation face aux canicules, l'exécutif se dédouane. Il y a un gros travail qui a été fait sur le sujet et je pense que l'honnêteté conduit à le regarder, déclarait Emmanuel Macron il y a quelques jours. Pourtant, en mars 2025, le Haut Conseil pour le climat, créé par ce même président, a estimé que les actions de ce plan d'adaptation, citation, « ne garantissent pas la capacité à protéger les personnes ». Depuis, rien de concret n'a été fait pour améliorer les conditions de vie des citoyens pris au piège de leur passoire thermique. Aujourd'hui, la gravité de la situation ne se mesure plus seulement en degrés, mais en vie humaine. Le bilan de la canicule qui frappe la France depuis fin 2026 est tragique. Plus de 1000 personnes décédées en une dizaine de jours. Victimes majoritairement âgées, individus fragiles qui ont succombé à la chaleur accumulée dans leurs appartements. Ces décès ne sont pas une fatalité climatique, mais la conséquence directe de l'insalubrité thermique. Chaque été, le bilan s'alourdit, s'ajoutant aux 5700 morts de l'année précédente. Laisser des millions de citoyens dans des logements sans protection solaire basique, c'est accepter année après année que nos façades deviennent les complices silencieuses d'une hécatombe. Pas de volets, pas de loyers, est le cri d'alarme d'une population face aux conséquences mortelles de l'inaction gouvernementale. Voilà, donc... Dans cet article, il est bien sûr évoqué et beaucoup mis en avant des règlements de copropriété, une bureaucratie d'urbanisme. Il y a un sujet qui, à mon avis, est absolument déterminant et qui l'est beaucoup moins pour être locataire, comme beaucoup d'entre nous, et pour être locataire du parc privé. Je suis complètement effaré de la manière dont le logement est conçu, alors par un certain nombre de propriétaires qui ont amorti leurs biens, qui n'ont plus de prêts à payer, et bien le logement devient une machine à cash, alors que évidemment dans le logement du secteur social, dans le parc HLM, le produit des loyers sert bien évidemment à réinvestir dans un certain nombre d'actions, à la fois d'entretien, mais aussi d'amélioration à long terme. Globalement, le parc social est moins énergivore que le parc privé. Alors, on a vu un contre-exemple dans cet article, avec un bailleur social Aximo, mais effectivement la situation, ce qu'on doit pointer, c'est bien sûr l'irresponsabilité détenir un logement. C'est pas détenir un bien matériel, c'est détenir beaucoup plus que ça, c'est détenir une condition de la dignité humaine, à savoir permettre à une personne ou une famille d'avoir un toit sur la tête, et bien cela impose des responsabilités, c'est un logement, c'est pas une machine à cash. C'est la logique du modèle capitaliste. Un logement, c'est la condition de la dignité, et un logement, eh bien, ça doit être entretenu, sévèrement entretenu. De mémoire, le produit locatif qui est consigné, eh bien, c'est au moins 15% des loyers pour l'entretien. Ça, c'est un peu des règles dans les organismes HLM. On voit beaucoup de propriétaires privés qui s'affranchissent totalement de ces questions et de ces responsabilités. Et là est aussi le problème, toujours la cupidité humaine, l'avarice et le fait de transformer des biens essentiels en marchandises. Là est aussi le cœur et le nœud du problème. On pourrait rajouter, mais on en a déjà parlé aussi, à ces primes d'amélioration à l'habitat, qui ont été largement gaspillés dans un premier temps, même un rapport de la Cour des comptes le signalait, avec le financement de monogestes, à savoir on change juste le système de chauffage, voire les fenêtres, parce qu'il fallait faire du chiffre sur le nombre de primes versées et de citoyens ayant recours à ces primes. Mais l'efficacité de ces primes ne s'applique que lorsque on a des améliorations d'ensemble sur l'enveloppe bâtie, aussi sur l'isolation notamment, sur et tout ça. Et donc pour être avoir significativement une amélioration de l'isolation thermique et d'avoir une amélioration de la classe énergétique, eh bien c'est sûr qu'il faut engager du saupoudrage de subventions, mais des travaux beaucoup plus lourds. Et il y a eu clairement des erreurs d'orientation de ces primes qui ont fait évidemment le bonheur des marchands de chauffage. Mais ces critiques ont déjà été faites. Alors, deuxième sujet en introduction, avec l'Observatoire des inégalités du 30 juin, qui nous dit que plus de 4 millions d'enfants ne partent pas en vacances. Les enfants subissent des inégalités importantes selon le revenu de leurs parents. 34% de l'ensemble des 5-19 ans ne sont pas partis en 2025, soit 4,2 millions d'enfants d'après l'organisme Crédoc. De nombreuses raisons ont pu jouer, mais parmi ceux qui ne sont pas partis, près de la moitié des parents ont indiqué qu'ils n'en avaient pas les moyens financiers, ce qui concernerait 2 millions d'enfants. Alors, la proportion d'enfants qui ne sont pas partis en vacances en 2025 a légèrement diminué par rapport aux années précédentes. Les écarts sont considérables selon les niveaux de vie. En effet, 56% des enfants vivant parmi les ménages aux bas revenus ne sont pas partis en vacances, soit deux fois plus que ceux qui appartiennent aux revenus supérieurs, selon les données du Crédoc. Voilà, donc au bout du compte, hein, quelle que soit l'enquête, un très grand nombre de familles, notamment des familles monoparentales avec un seul parent, n'ont pas les moyens de payer des vacances à leurs enfants, contraints de rester chez eux toute l'année, quand d'autres ont la possibilité financière de quitter leur foyer, d'accéder à des horizons et des loisirs différents. Ça me semble important de le rappeler en cette période où ben, on se souhaite de bonnes vacances. Eh bien, il faut savoir que changer d'environnement, eh bien, c'est le fait finalement d'un certain nombre de privilégiés. Plus d'un tiers des ménages ne partent pas en vacances. Une autre étude, parce que là on parlait des enfants, toujours citée par l'Observatoire des inégalités, nous dit que le chiffre de taux de départ en vacances global, hein, sur l'ensemble des ménages est autour de 60%, donc 40% de personnes ne partent pas en vacances. Évidemment, 78% des cadres sup partent en congé contre 54% des ouvriers, selon des données de 2025. Et plus on monte dans l'échelle sociale, plus on a de chances de s'échapper. 37% des cadres partent plusieurs fois dans l'année. Évidemment, c'est une question de finances. On a aussi ces systèmes sociaux, en tout cas avec une modulation sociale, hein, qui permet aussi d'accéder à des colonies de vacances, des centres de vacances, qui est un réseau qui est à vraiment maintenir, parce que on le voit, ce n'est pas du tout une évidence, arriver à cette période estivale, de pouvoir partir en vacances. Et puis, pour revenir de façon un petit peu, pas très structuré, sur la canicule, et on en reparlera tout à l'heure, il m'a semblé important de faire écho aussi à un article de reporter écrit par Vincent Lucchese du 25 juin sur la canicule, qui est une violence politique, qui nous dit que les canicules sont le résultat de choix. Ceux des dirigeants qui balayent les objectifs climatiques, obnubilés par la sacro-sainte croissance, cette élite capitaliste hors sol et criminelle. Et ça, c'est évidemment un édito qui est paru dans Reporter. Des enfants morts noyés, des personnes âgées mortes de chaud, des étudiants et des travailleurs exténués contraints de s'activer dans la fournaise, la canicule qui touche la France, qui a touché la France donc fin juin, hors norme tant par son intensité que sa précocité au mois de juin, a laissé le pays chaos. L'épuisement et la sidération sont largement partagés, mais où est la colère ? Les canicules sont encore vécues aujourd'hui avec fatalisme par une grande partie de la population, comme un aléa que l'on subit en serrant les dents. Elles sont pourtant devenues tout autre chose, une violence générée volontairement en toute connaissance de cause. Dès 1971, Total Energy savait que ses activités provoquaient un réchauffement planétaire et risquaient d'entraîner des conséquences catastrophiques. La major pétrolière l'écrivait noir sur blanc. À la même époque, son concurrent ExxonMobil était aussi parfaitement au courant. La même chose est documentée pour Shell une décennie plus tard. Or, non seulement ces compagnies pétrolières n'ont pas sonné l'alerte, n'ont pas décidé d'arrêter leurs extractions d'énergie fossile, mais elles ont orchestré une gigantesque campagne de désinformation et de lobbying, répandant le climato-scepticisme et sabotant les négociations climatiques. Le cynisme des gouvernements est peut-être encore plus criminel. Aucun ne peut prétendre sérieusement avoir été victime de la désinformation des pétroliers. Les meilleurs scientifiques du monde, à commencer par ceux réunis au sein du GIEC, n'ont cessé de les alerter sur tous les tons depuis des décennies sur la gravité du changement climatique d'origine anthropique et de ses conséquences dans la hausse de l'intensité et de la durée des vagues de chaleur en Europe de l'Ouest. Il y a bien sûr ceux qui se détournent de la science et ne s'en cachent pas, le président états-unien Donald Trump, son homologue argentin Javier Milei et toute l'internationale carbo-fasciste, sans les relais actifs des intérêts du capitalisme fossile. Et puis il y a tous les autres, ceux qui se prétendent responsables du camp de la raison et promettent de tout faire pour protéger leur population du chaos climatique. Dans les faits, soit les objectifs de baisse d'émissions de gaz à effet de serre des États sont insuffisants, soit ils ne sont pas tenus, soit les deux à la fois. L'objectif de l'accord de Paris de rester sous 1,5 degré de réchauffement par rapport à l'ère pré-industrielle est mort et enterré, et les politiques actuelles nous mènent au désastre. Au lieu d'accélérer les efforts, l'Union européenne multiplie depuis des mois les retours en arrière. Recul sur la fin des ventes de voitures thermiques, recul sur l'agriculture et détricotage de nombreuses normes environnementales. Les décideurs le savent, Ces reculs ne font qu'aggraver les catastrophes et les événements extrêmes, à l'instar de la canicule qui a fait souffrir la population fin juin et qui continue à le faire bien aujourd'hui. Mais cette donnée ne pèse pas assez lourd dans la balance, car en régime capitaliste, la croissance économique infinie est vitale et cette accumulation infinie de ressources est incompatible avec la préservation écologique du monde. Lorsqu'il s'agit d'arbitrer entre respect des limites planétaires et sauvegarde des intérêts économiques, les seconds l'emportent systématiquement. La défense de la compétitivité économique est très clairement la justification assumée des élites européennes pour acter de leur recul écologique. Il nous faut insister sur cette réalité simple et brutale. Les décideurs politiques ont les données scientifiques sous les yeux. Ils savent que leurs renoncements engendreront plus de drames et de morts. Notre trajectoire climatique nous mène en France vers 10 fois plus de jours de vagues de chaleur par an et les 50 degrés dépassés dans une ville comme Paris peut-être dès 2050. Mais il est jugé plus raisonnable d'accepter ces catastrophes et de sauvegarder un système économique moribond dont ne profite plus grand monde au-delà de la classe dominante. Au lieu de faire de la préservation d'un climat habitable un impératif catégorique et d'adapter nos règles socio-économiques en conséquence, on fait l'inverse. L'accumulation capitaliste est non négociable et advienne que pourra pour le climat. Là est la véritable violence. C'est flagrant dans le cas de la France où la violence est double. D'une part, parce que nos baisses d'émissions de carbone ne respectent pas nos engagements. D'autre part, parce que nos politiques d'adaptation sont insuffisantes. Dans les deux cas, les risques engendrés pour la population sont documentés, les alertes sont lancées et l'État, au lieu d'avancer, recule. Au nom de l'austérité budgétaire, sur l'autel de la sacro-sainte croissance économique, le budget de la transition écologique ne cesse d'être sabordé. Entre deux canicules, le gouvernement a décidé de raboter le budget de MaPrimeRénov', donc ça c'est les aides dont je parlais tout à l'heure, a décidé de raboter le dispositif de rénovation énergétique des logements. Le fonds vert, censé aider les collectivités locales à s'adapter au changement climatique, a été amputé des deux tiers de son budget. Les lois agricoles successives tournent le dos à la transition agroécologique et perpétuent un modèle industriel mortifère et ultra-carboné. Un tiers du réseau ferré français est menacé d'un effondrement irréversible, faute de moyens pendant que l'État finance des autoroutes inutiles. La liste des renoncements écologiques est interminable. Emmanuel Macron est au pouvoir depuis 9 ans. Il a lui-même créé le Haut Conseil pour le climat qui ne cesse de blâmer ses politiques climatiques insuffisantes. Il agit en toute connaissance de cause et il parle de même. Lorsqu'il fait mine de s'étonner de l'existence de la crise climatique, lorsqu'il appelle chacun à la vigilance et à boire de l'eau face à la canicule, il ajoute l'indécence à la brutalité. Il superpose la violence symbolique à la violence climatique, celle d'une élite capitaliste hors sol qui se gausse depuis les salons climatisés du pouvoir et démontre son absence totale d'empathie pour la majorité des terriens, ceux qui subissent les conséquences de leurs choix. Les écoles et les appartements transformés en fours, les maisons qui deviennent inassurables, la crainte pour sa survie et celle de ses enfants. Comment imaginer tenir lorsque les canicules seront de 10 degrés de plus chaudes que celles que nous traversons en ce moment ? Résister à cette violence devient une exigence vitale. Ça commence par la nommer, ne plus subir l'inversement orwellien du langage qui transforme les militants écologistes qui luttent pour l'avenir en éco-terroristes et fait passer l'oligarchie sociopathe qui détruit le monde pour les garants de la raison. Ne pas accepter la dépolitisation apparente de l'écologie qui fait porter la responsabilité sur les individus et les éco-gestes. Mettre à nu, dans toute leur abjection, la réalité de la violence du capital, celle de l'État qui le sert et de leurs dérives néofascistes. Penser la chaleur qui accable nos corps comme une agression de la part d'une élite criminelle, une atrocité et un crime contre l'humanité, c'est le préalable pour générer un sursaut et les mettre hors d'état de nuire. Et vite, ça brûle. Voilà, c'est la conclusion d'un article, d'un édito du 25 juin de la revue en ligne Reporter. Eh bien, nous allons nous accorder une respiration musicale, aller boire un grand verre d'eau. Et on se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Oh, for our years, and if they run, take up to their ear in the same this rock.
Voilà, c'était Inner Terrestrials, Earth Must. La Terre doit. Vous êtes sur Radio Libertaire, 89,4 MHz, dans l'émission Les Mangeux de Terre, qui reprend son cours en direct et qui ouvre la page de l'agriculture avec évidemment. Alors, encore le site reporter qui nous parle de la loi d'urgence agricole. Une nouvelle loi du plomb En effet, la version initiale du gouvernement était déjà une belle reculade pour l'environnement au profit de l'agro-industrie. Les sénateurs ont adopté le 2 juillet une version de la loi d'urgence agricole poussant les curseurs encore plus loin. Contre l'avis du gouvernement et de la majorité des députés, ils ont adopté la réintroduction de deux insecticides néonicotinoïdes répondant au nom d'acétamipride et de flupyradifurone. Cette mesure, déjà comprise dans la loi Duplomb, avait été retoquée par le Conseil constitutionnel. En pleine canicule et alors qu'une sécheresse intense touche la France, les sénateurs ont également joué la surenchère pour les mesures concernant l'eau. Telle une déclaration d'amour aux mégabassines, ils ont doublé l'objectif de stockage d'eau pour l'agriculture d'ici 2030 et tout fait pour affirmer la priorité de l'agriculture sur les autres usages de l'eau, celui des citoyens, des entreprises, mais aussi de la biodiversité. Ils ont affaibli la protection des zones humides de diverses manières. Pourtant, ces sols éponges permettent de retenir l'eau naturellement, de réguler son cycle et de maintenir de la fraîcheur, par exemple, en cas de canicule. Le champ des pollutions pris en compte pour déclarer qu'un captage d'eau doit être protégé a aussi été réduit. Les pesticides désormais interdits ne seront pas pris en compte. Le sénateur écologiste Daniel Salmon a indiqué que la moitié des captages d'eau potable aujourd'hui prioritaires pourraient sortir de ce classement. Les mesures permettant de faciliter le tir des loups et la régulation de la population déjà durcie par les députés et en commission au Sénat ont été confirmées. Je ne reconnais plus le texte du gouvernement. Il a été profondément remanié au point de devenir une nouvelle loi Duplomb qui met gravement en péril la démocratie de l'eau et par conséquent la garantie d'un partage juste de cette ressource vitale, a déclaré la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu. Pour que le texte puisse être approuvé, un compromis doit désormais être trouvé entre sénateurs et députés. Ça se passera en commission paritaire mixte d'ici la mi-juillet, où les débats promettent d'être houleux. Également avec la Confédération paysanne, un communiqué du 10 juin, cette fois-ci sur la politique agricole commune, dans le cadre des négociations en cours, la Confédération paysanne présente ses propositions pour définir la notion d'agriculteur actif et garantir que les aides publiques reviennent réellement aux paysans qui travaillent sur les fermes. Aujourd'hui, les dérives se multiplient, montage sociétaire artificiel, travaux de la ferme intégralement délégués, concentration des aides, financiarisation de l'agriculture, accaparement du foncier. Tout cela permet à des structures éloignées du travail agricole réel de capter des millions d'euros d'aides publiques. Les révélations récentes concernant la famille royale des Émirats Arabes Unis, qui aurait bénéficié de 71 millions d'euros d'aide de la PAC entre 2019 et 2024 via des exploitations agricoles en Roumanie, en Espagne et en Italie, montrent l'ampleur des failles actuelles du système. Pendant que de nombreux paysans et paysannes peinent à vivre de leur travail, certains groupes financiers ou investisseurs français et étrangers profitent des règles permissives de la PAC pour capter les aides publiques destinées à soutenir l'activité agricole. La Confédération paysanne refuse que la PAC continue d'encourager un modèle agricole dominé par des holdings, des investisseurs ou des sociétés dont l'objectif principal n'est pas le travail agricole, mais la rentabilité financière. Les aides européennes doivent être réservées aux personnes qui exercent réellement une activité agricole, participent effectivement aux travaux et maîtrisent leur outil de production. Depuis 2023, la Confédération paysanne dénonce un système qui ouvre grand la porte à la financiarisation de l'agriculture sans lien avec la production et condamnant installation et transmission. Par exemple, la France permet à une personne ne détenant que 5% des parts sociales d'une société d'être reconnue comme agriculteur actif. Une telle définition permet à des investisseurs extérieurs de prendre le contrôle de fermes tout en continuant à bénéficier des aides de la PAC grâce à des gérants agricoles de façade. Pour mettre fin à ces dérives, la Confédération paysanne propose que les sociétés agricoles bénéficiant des aides de la PAC soient réellement contrôlées par des paysans et paysannes travaillant dans la structure, avec une détention majoritaire du capital social à plus de 51% et des droits de vote à plus de 65% par des agriculteurs actifs. Elle demande également qu'une personne physique ne puisse être reconnue agriculteur actif qu'au travers d'une seule société agricole afin d'empêcher les montages artificiels qui permettent de multiplier les aides de la PAC, notamment les aides plafonnées comme le paiement redistributif. Aujourd'hui, certains bénéficiaires touchent jusqu'à 12 fois ce paiement grâce à la division de leur exploitation en plusieurs sociétés distinctes. La Confédération paysanne rappelle également que la pluriactivité fait partie des réalités du monde agricole. De nombreux paysans, de nombreuses paysannes exercent une activité complémentaire pour faire face à la saisonnalité de la production, assurer un revenu viable ou permettre une installation progressive. La Confédération paysanne défend le maintien des aides de la PAC pour les paysans pluriactifs. Cette pluriactivité doit toutefois être encadrée afin d'éviter des effets d'aubaine via le plafonnement des revenus extra-agricoles à 3120 fois le SMIC horaire, soit 30 825 euros. Seuil retenu au titre du contrôle des structures afin de réserver les aides de la PAC aux véritables professionnels de l'agriculture. Enfin, pour favoriser le renouvellement des générations et faciliter la transmission des fermes aux nouveaux entrants, la Confédération paysanne propose de retirer progressivement les aides de la PAC aux personnes ayant atteint l'âge légal de départ à la retraite à taux plein après une courte période transitoire. La future PAC doit permettre de maintenir des fermes nombreuses et transmissibles. L'argent public doit servir à celles et ceux qui travaillent la terre, créent de l'emploi, entretiennent les territoires et assurent notre souveraineté alimentaire, et non aux stratégies d'optimisation sociétaire ou des intérêts financiers éloignés du monde paysan. Alors, dans les nombreux tours de passe-passe, il y avait aussi toujours, sur la base d'un communiqué de la Confédération paysanne du 24 juin, le gouvernement qui s'apprête à réaliser donc ce tour de passe-passe de 93 millions d'euros issus du reliquat de l'aide à la conversion à l'agriculture biologique, qu'il veut utiliser pour une opération de désendettement de l'État en remplaçant des crédits nationaux qui cofinancent l'assurance récolte par des fonds européens issus du reliquat de la conversion à l'agriculture biologique. L'argent de la bio servirait alors à désendetter l'État. Je pense que c'est... C'est pas la peine d'en lire plus sur le communiqué. Ça vous montre un peu le niveau atteint par ce gouvernement sur toutes les actions écologiques, environnementales. Ben, on racle les fonds des subventions pour les transférer vers des couvertures de risque. En plus, alors je reprends momentanément quand même le communiqué qui précise que l'assurance récolte ne réduit pas la dépendance aux intrants, ne protège ni les sols ni l'eau et ne soutient en rien spécifiquement les fermes biologiques, et que ce transfert revient à payer pour indemniser les dégâts d'un modèle agro-industriel, et en plus rappelle que seulement 30% des paysans et paysannes français sont assurés et les surfaces assurées sont en diminution, preuve de l'échec de ce dispositif. Un système qui en plus est profondément inégalitaire. De nombreuses productions sont mal ou pas couvertes par les assureurs. Les paysans et paysannes qui ne peuvent pas accéder à un contrat subissent une double peine, absence de couverture assurantielle et indemnisation publique dégradée. Pour répondre à la multiplication des crises climatiques, la Confédération paysanne demande le renforcement des mesures de transition et l'instauration d'un fonds mutuel et solidaire. Donc on le voit, en résumé, c'est du bricolage et ça se fait au détriment de l'agriculture biologique qui, dans un article publié par Agir pour l'environnement du 16 juin, nous dit que malheureusement, pour la troisième année consécutive, la surface agricole bio a de nouveau régressé de 1,1% en France, en perdant plus de 30 000 hectares, selon les dernières données communiquées à l'occasion d'une conférence de presse de l'agence bio. Force est de constater que la part de bio dans la surface agricole utile est inversement proportionnelle aux grands objectifs que le gouvernement se fixe. En 3 ans, ce sont donc 130 000 hectares de surface en bio qui ont été déconvertis, marquant un échec patent de la politique du gouvernement en la matière. Pour atteindre l'objectif de 21% de surface bio d'ici 2030, la surface agricole utile devrait cultiver en bio devrait augmenter de près de 600 000 hectares par an, alors qu'elle régresse en moyenne de 40 000 hectares chaque année depuis 3 ans. Face à cette énième déconvenue, Agir pour l'environnement, donc l'association, appelle à adopter une loi de programmation de soutien à l'agriculture biologique, véritable plan Marshall dotant la filière bio de moyens budgétaires à la hauteur des objectifs fixés. Force est de constater que la multiplication des lois d'urgence agricole et leur cohorte de mesures contre nature ne répondent pas aux nécessités rencontrées par les 17,3% d'agriculteurs français ayant opté pour la bio. Voilà, alors peut-être aussi une dernière info avec l'association France Nature Environnement qui revient sur l'affaire de Sainte-Soline. En effet, fin 2022, l'association de protection d'information et d'études de l'eau et de son environnement a vu certaines de ses subventions coupées par l'administration et a été exclu des comités locaux de la politique de l'eau sur la base d'une photo d'un devis pour des toilettes sèches. L'administration lui reprochait d'avoir participé à l'organisation de la manifestation de Sainte-Soline. Cependant, cette association n'a jamais reçu ni signé ce devis. Au sein d'un torrent de mesures répressives à la suite des mobilisations contre les mégabassines, donc l'APIEEE, donc cette association, et France Nature Environnement interpellent le rapporteur spécial des Nations Unies sur les défenseurs et défenseuses de l'environnement. Ce dernier demande alors à l'État français de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à la persécution, à la pénalisation et aux mesures vexatoires. La justice est également saisie et ce 25 juin 2026, après plus de 3 ans de procédure, le tribunal administratif de Poitiers vient d'annuler la décision de l'administration. Une affaire qui finit bien, mais qui caractérise le virage autoritaire contre les associations de protection de l'environnement. Antoine Gattet, vice-président de France Nature Environnement, le rappelle. Malgré la multiplication des violences institutionnelles, des intimidations et des obstacles croissants à la démocratie participative, France Nature Environnement et les 8000 associations de son mouvement restent mobilisées et plus déterminées que jamais pour faire valoir leurs droits devant la justice. Par cette décision qui reconnaît une nouvelle fois une action illégale de la région académique, la justice rappelle à l'État qu'il doit protéger les libertés associatives et non participer directement aux entraves, voilà qui est bel et bien dit. On s'accorde une nouvelle pause musicale. On se retrouve juste après. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz.
Maronor
Voilà, c'était La Peste des Lions. Donc, c'était chanté en breton par Denèse Prigent. Je vais quand même vous lire la signification de ce texte qui fait référence à un épisode de peste au 6e siècle et la forme musicale est une guerze. La peste des Lions, la peste est partie des Lions, mais non pas sans fourner. Elle a emporté 7100 âmes. Sur la grande place des Lions, on trouverait de l'herbe à faucher, hormis dans l'ornière de la charrette qui mène les morts en terre, dur le cœur qui n'eût pleuré au pays des Lions, quel qu'il fût. De voir 18 charrettes pleines à la porte du cimetière, et 18 autres y venir tout le long du chemin. Il y avait 9 enfants dans une maison, un même tombereau les porta en terre, leur pauvre mère les traînait, leur père suivait en sifflant, il avait perdu la raison. Elle hurlait, appelait Dieu, bouleversée corps et âme, c'était pitié de la voir. Enterrez mes 9 enfants, je vous promets un cordon de cire qui fera 3 fois le tour de vos murs. J'ai enfanté 9 fils, toute mon espérance en ce monde, l'encou est venu me les prendre dans sa colère, sur le seuil de ma porte, personne pour me donner de l'eau. Le cimetière est plein jusqu'au mur, il faut bénir les champs pour enterrer les cadavres. Je vois un chêne dans le cimetière, un linceul flotte à sa cime, la peste a emporté tout le monde. Voilà pour ce très beau texte, et nous allons reprendre donc le cours de l'émission des Mangeterres avec la page climat, effet de serre, énergie, donc c'est extrêmement évidemment d'actualité. On l'a pas dit tout à l'heure, mais on est peut-être en train de vivre la troisième vague de canicule consécutive. Il y en a eu une tous les mois depuis le mois de mai. Et du côté de l'océan, Reporter nous rappelle que l'océan a atteint un record de chaleur pour la saison. D'après les données du service Copernicus sur le changement climatique et du service Copernicus sur le milieu marin, le 21 juin, la température moyenne à la surface de l'océan global a oscillé autour de 21 degrés, battant les précédents records de 2023-2024. Ce nouveau record était prévisible compte tenu de l'apparition des conditions El Niño dans le Pacifique équatorial, ainsi que l'observation de températures marines exceptionnellement élevées dans plusieurs régions au cours des derniers mois. Fin juin, la température de surface atteignait ainsi 20,7 degrés dans le golfe de Gascogne, sur la façade ouest de la France, et 25,1 en Méditerranée, soit environ 3 degrés de plus que les valeurs de référence à cette période de l'année. L'envolée du mercure en mer devrait avoir des répercussions sur les conditions météo et sur les écosystèmes marins. La hausse des températures océaniques maintient l'atmosphère à une température élevée de plus longtemps, ce qui peut augmenter l'évaporation de l'eau et donc le risque de précipitations extrêmes et d'inondations. Le réchauffement des océans contribue également à l'élévation du niveau de la mer et de la fonte des glaces. La biodiversité marine, dont dépendent plus de 3 milliards de personnes pour subvenir à leurs besoins, pâtit également de cette situation. Les espèces marines ont évolué pendant des millions d'années pour occuper des fenêtres thermiques spécifiques, expliquait en 2023 à Reporter l'écologue Dan Small. Lorsque ces seuils de température sont dépassés, ça peut générer un stress important, des échecs reproductifs, voire des mortalités massives avec des implications pour l'ensemble de la chaîne alimentaire et des écosystèmes touchés. Une étude parue en 2022 dans la revue scientifique Global Change Biology a notamment montré que les vagues de chaleur marine pouvaient provoquer des mortalités massives chez une cinquantaine d'espèces de poissons, d'éponges, d'algues, de mollusques, jusqu'à 40 mètres sous la surface. Et puis, je l'évoquais aussi en introduction, les tout derniers chiffres, en tout cas toujours selon le reporter du 3 juillet, les chiffres redoutés commencent à tomber en France entre les 22 et 28 juin, date auquel une canicule de tous les records a touché l'Hexagone. Le nombre de décès enregistrés a augmenté de près de 30%. Autrement dit, 2025 morts supplémentaires par rapport à la semaine précédente, a précisé le 3 juillet sur TF1 la ministre de la Santé Stéphanie Rist. La tendance est encore plus frappante en région parisienne, où les données publiées par Santé publique France évoquent une augmentation de 62% des décès. Pareille progression a été signalée dans les Pays de la Loire. Malheureusement, il s'agit là d'une sous-estimation, car ces chiffres s'appuient sur les seuls certificats électroniques de décès, qui ne rassemblent qu'un peu plus de la moitié des morts en France. Ce qui est très important, c'est que dans ces 2025 décès, on trouve une augmentation de 91% de décès à domicile par rapport à la semaine précédente, a ajouté la ministre de la Santé. La veille sur RMC, la ministre des Sports et de la Jeunesse, Marina Ferrari, avait déclaré que le bilan des décès par noyade s'élevait, lui, à plus de 90 depuis l'arrivée de la canicule. Même si aucun profil type ne se dégage parmi les victimes, il y avait beaucoup de jeunes en quête de fraîcheur, a-t-elle précisé. D'autres pays européens commencent à entrevoir les répercussions de la canicule de juin. En Belgique, un bond de 39% des décès a été observé d'après le bilan provisoire dressé le 3 juillet par le gouvernement fédéral. En Espagne, au moins 1028 décès attribuables à la chaleur ont été recensés en juin, selon l'Institut de santé Carlos III à Madrid. À titre de comparaison, c'est plus du double que les 407 décès attribuables à la même cause en juin 2025, qui avait pourtant été le plus chaud jamais enregistré dans le pays. À l'heure de tirer un premier bilan de cette canicule, et alors qu'un nouvel épisode de chaleur extrême pointe déjà le bout de son nez, les députés et les écologistes ont déposé une motion de censure contre le gouvernement pour dénoncer son inaction. On sait qu'aujourd'hui, cette motion de censure a été rejetée. Il n'en reste pas moins que le chiffre, malheureusement, des décès liés à la précédente canicule, eh bien, n'est pas encore connu, mais on peut l'estimer et il augmente au fur et à mesure des estimations. Ouvrons également la page énergie avec Novetic. Un article qui m'a semblé évidemment intéressant. Puisque cet article revient sur le Danemark et une mesure prise fait passer les data centers, donc les centres de données, après les usages essentiels. En effet, le gouvernement danois veut désormais hiérarchiser l'accès au réseau électrique en fonction de l'intérêt général. Une décision qui illustre les nouveaux arbitrages énergétiques imposés par le développement de l'intelligence artificielle. Lorsque le réseau électrique ne suffit plus à satisfaire tout le monde, qui faut-il alimenter en premier ? Le Danemark donc vient de trancher. Le gouvernement a annoncé qu'il établirait un ordre de priorité pour les nouveaux raccordements électriques afin de réserver les capacités disponibles aux activités jugées essentielles. Les grands centres de données figurent, eux, parmi les derniers servis. Le choix est loin d'être symbolique. En mars, le gestionnaire du réseau EnergyNet avait déjà suspendu pendant 3 mois l'examen des nouvelles demandes de raccordement. Les projets en attente représentaient près de 60 gigawatts, alors que le réseau danois est dimensionné pour absorber environ 7 gigawatts lors des pics de consommation. Les ménages, le secteur de la santé, la défense, les transports, le chauffage urbain, les entreprises et les énergies renouvelables ne doivent pas être relégués au second plan, a justifié la ministre du Climat, Samira Nawa. Selon elle, les très grands projets, peu flexibles, ne peuvent plus monopoliser une capacité devenue rare. Le projet de loi qui sera présenté à l'automne prévoit de classer les demandes de raccordement selon 4 niveaux de priorité. Les infrastructures indispensables au fonctionnement des pays passeront avant les grands consommateurs d'électricité, au premier rang desquels les data centers, donc centres de données. En parallèle, Copenhague promet d'accélérer les investissements dans son réseau afin de répondre aux besoins futurs. Ce débat sur les arbitrages énergétiques commence aussi à émerger ailleurs. Aux Pays-Bas, les autorités ont déjà limité l'implantation de nouveaux centres de données autour d'Amsterdam. L'Irlande a freiné les raccordements dans la région de Dublin, où ses infrastructures absorbent une part importante de l'électricité disponible. Aux États-Unis, l'État du Maine a adopté au printemps un moratoire sur les très grands data centers afin d'évaluer leurs effets sur le réseau électrique, la consommation d'eau et les factures des ménages. La France ne suit pas tout à fait la même trajectoire. Depuis le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle organisé l'année dernière, Emmanuel Macron multiplie les annonces pour attirer ses infrastructures numériques en mettant en avant une électricité abondante et largement décarbonée, notamment grâce au nucléaire. La récente loi de simplification de la vie économique facilite même leur implantation en permettant à certains projets d'obtenir le statut de projet d'intérêt national majeur. Les investissements suivent. Selon le baromètre Trendéo, les data centers ont concentré près de 69 milliards d'euros d'annonces d'investissement en 2025, soit plus de la moitié des montants recensés cette année-là. Or, selon les projections de RTE, Réseau de Transport de l'Électricité, la consommation électrique des data centers pourrait tripler d'ici à 2035 pour atteindre entre 23 et 28 TWh. Le Shift Project estime même qu'elle pourrait atteindre 40 TWh à cet horizon si le développement de l'intelligence artificielle se poursuit au rythme actuel. À cette pression sur le réseau s'ajoutent les effets du changement climatique. Lors du dernier épisode de canicule, l'opérateur Cogent a averti qu'il ne parvenait plus à refroidir normalement un de ses centres de données à Rennes. Le risque de surchauffe est réel, alertait alors Frédéric Bordage, fondateur du collectif Green IT, en rappelant que de nombreux équipements ont été conçus à partir de données climatiques désormais dépassées. Le Danemark n'est sans doute qu'un avant-goût des arbitrages à venir. Là, en France notamment, les projets de data centers cristallisent de plus en plus les oppositions. Dans la Drôme, un collectif a déposé un recours contre le projet de Sesterce à Revaltin. À Marseille, plusieurs associations dénoncent depuis des années les conséquences des data centers sur la consommation d'eau et d'électricité. Dans l'Indre, près de 200 personnes ont encore manifesté fin juin contre le futur campus de Google à Étréchet, dénonçant son emprise foncière, sa consommation électrique et le faible nombre d'emplois promis. Les élus locaux défendent au contraire un investissement stratégique pour la réindustrialisation et la souveraineté numérique. Aux États-Unis, plus de 75 projets représentant près de 130 milliards de dollars d'investissement ont déjà été retardés ou abandonnés sous l'effet de mobilisation locale, selon le cabinet Data Center Watch, tandis que des collectifs se sont constitués dans presque tous les États. Cette montée des contestations accompagne une autre réalité. Les géants du numérique eux-mêmes peinent à concilier leurs ambitions climatiques avec la course à l'intelligence artificielle. Google indique que ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de 82% depuis 2019, tandis qu'Amazon affiche une hausse de 58% sur la même période, principalement sous l'effet de la construction de nouveaux data centers. Voilà. Eh bien, qui nous met aussi devant nos responsabilités, avec évidemment des consommations complètement superficielles, hein, de consommation de vidéos en ligne, de streaming, de questions parfois débiles et complètement inutiles posées sur les moteurs de recherche, et l'intelligence artificielle utilisée à tort et à travers, effectivement, ce fléau, eh bien, doit être combattu. Et on le voit même sur le plan économique, hein, il y a des arbitrages qui se font, des gouvernements aussi s'en saisissent. Voilà, donc c'est un dossier à suivre. On se fait une nouvelle pause musicale. On se retrouve juste après. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre.
Des mots qui nous accablent, nous allons vers le pire, l'apocalypse vient, cessons de nous mentir, ouvrons enfin les yeux, nos yeux couverts d'écailles, sous des paupières de plomb.
Dans l'église désertée, on se hait.
Qui est donc responsable des mots qui nous accablent dans nos villes détestables? L'hydrogène sulfuré a chassé l'air des rues et la peur est palpable. Nos apprentis sorciers atomisent en secret. Pendant ce temps-là, nos médias nous distillent à longueur d'antenne les sales gueules imbéciles et les propos creux. Gloire aux charlatans. Qui est donc responsable des mots qui nous accablent? Le quotidien s'écarte en cent mille grisailles. Le quotidien se charge de désirs réprimés. Et puis tous ces amours, on ne vivra jamais. Pendant ce temps-là, les années vont tracer le sillon des rives sur nos visages défaits. Le vieil enfant s'endort, espérant que demain, demain, quelque chose ou quelqu'un. Qui est donc responsable des mots qui nous accablent? Les coupables, bien sûr, ce sont toujours les autres, mais surtout jamais nous, pauvres
lave impuissant. Quand allons-nous cesser d'être témoins de tout? Nos désirs, faire de cette terre autre chose qu'un trou où nous-mêmes on s'enterre pour mourir.
Qui est donc responsable? Question posée par François Béranger. Vous êtes à l'écoute de Radio Libertaire sur 89,4 MHz dans l'émission Les Mangeux de Terre. Et nous reprenons le cours dans cette dernière demi-heure de l'émission avec une page consacrée au nucléaire. Cette information de l'Observatoire du nucléaire, on y reviendra, qui nous dit que pour justifier ces projets de continuation du nucléaire, l'État français doit pouvoir prétendre qu'il existe une solution pour les déchets radioactifs les plus dangereux à durée de vie illimitée. Et pour ce faire, il suffit, eh bien, tout simplement, de prétendre que cette solution existe. L'idée lumineuse est de creuser bien profond le chantier Cigéo à Bure dans la Meuse, d'enfouir pendant environ 100 ans et de dire que le problème est réglé. À 6 km de Bure, l'ancienne gare de Luméville, un lieu emblématique de la lutte antinucléaire, a été l'objet d'une expulsion le 20 avril. Les opposants ont préféré quitter les lieux avant l'opération militaire pour échapper à la répression et aux violences policières. Le projet d'enfouir les rebuts radioactifs français à 500 mètres sous terre est le fruit d'une longue histoire de controverses. Finalement, la promesse de choisir démocratiquement la façon de gérer ces déchets n'a pas été respectée, selon le chercheur Lenny Patineau. Fin mai, l'autorité de sûreté, la SNR, a pointé d'importants retards dans les chantiers de démantèlement d'anciennes installations et dans la mise en place de filières pérennes de gestion des déchets radioactifs. Qui plus est, ce qui n'est pas une surprise puisque cela concerne tous les projets nucléaires, la facture annoncée au début pour Cigéo enfle de façon irrépressible. Et justement, sur Cigéo, donc avec un communiqué du CEDRA, du 23 juin, qui nous nous parle de l'enquête publique en cours justement sur ce projet de Cigéo Bure, et qui propose d'émettre des avis défavorables et étayés, et pour cela jusqu'au 16 juillet. En effet, l'ANDRA a fait appel à ses troupes de l'industrie nucléaire pour envoyer plein d'avis favorables à l'enquête publique, et ça s'en donne un cœur joie. C'est fou quand on est loin et payé par le nucléaire, comme il est facile d'expliquer aux gens qui vivent sur place que Cigéo, c'est le rêve, même celui des générations futures, et que tout ira bien dans le meilleur des mondes. Bah voyons, et nous, on n'est pas des lapins de 6 semaines, hein. Alors, même si nous savons que notre multitude d'avis négatifs sera balayée par les commissaires enquêteurs et par l'État, nous ne pouvons pas laisser passer l'enquête publique comme une lettre à la poste pour qu'il fanfaronne ensuite que tout le monde serait favorable à Cigéo. Donc l'association CEDRA, CEDRA appelle à envoyer les contributions en masse jusqu'au 16 juillet à 17h, en suivant, donc il y a un document sur Internet, pardon, un document à télécharger qui liste un certain nombre d'arguments, et il faut bien utiliser l'expression avis défavorable et l'étayer, évidemment, avec des arguments qui vous sont fournis. Vous pouvez piocher dedans pour trouver celui ou ceux qui vous correspondent le plus. Et bien sûr, donc la coordination Stop Cigéo, a mis donc à disposition cette ressource par rapport à l'appel, la consultation en cours. Voilà, donc si vous voulez y contribuer pour contrer les lobbyistes du nucléaire, n'hésitez surtout pas. Alors, dans l'actualité du nucléaire, eh bien, on en a parlé tout à l'heure, l'Observatoire du nucléaire a sorti sa revue de presse du printemps, Et pour cela a fourni aussi un édito qui nous dit que livret A nucléaire au logement, il faut choisir, parce qu'en effet, historiquement, l'argent du livret A des citoyens de France, ainsi que celui d'autres produits comme le livret de développement durable, est principalement consacré au financement du logement social. Et le moins que l'on puisse dire est qu'il y a des besoins criants, en particulier dans le financement et de la rénovation, afin de réduire la consommation d'énergie du pays et dans le même temps les factures d'énergie des citoyens. Mais au mépris de toutes les données qui montrent qu'il est urgent, nécessaire et payant d'investir massivement dans les énergies renouvelables, la Macronie finissante, pour ne pas dire pourrissante, et EDF ont décidé de lancer la construction de réacteurs nucléaires, les fameux EPR de deuxième génération. Ces réacteurs, qui n'existent à ce jour que sur le papier, sont déjà aussi ringards avant même la pose de la première pierre que l'EPR de première génération de Flamanville, qui, au fait, n'est toujours pas en service commercial. Alors que sa période de test s'achève péniblement, il va devoir être arrêté un an pour check-up complet. Il fonctionnera peut-être début 2028, avec donc 16 ans de retard. Les chantiers nucléaires nécessitent des sommes inouïes que EDF ne possède bien sûr pas, l'entreprise étant au contraire proche de la faillite. Alors Macron et ses séides ont décidé de voler l'argent du livret A et d'offrir quasiment 50 milliards à EDF à un taux dérisoire et avec un remboursement ne commençant qu'après la mise en service des réacteurs. Il semble déjà acté que les chantiers prendront de longues années de retard comme pour les EPR de première génération. Les protestations sont nombreuses, mais en France, le pouvoir n'a aucune intention d'en tenir compte. Alors, une fois n'est pas coutume, la solution pourrait venir de Bruxelles. En effet, la Commission européenne a ouvert une enquête pour savoir si les aides gigantesques que l'État français entend offrir à EDF ne viendraient pas bafouer la sacro-sainte concurrence libre et non faussée. La réponse est facile à trouver, non au nucléaire, oui au logement bien isolé. Autre sujet mis en avant par le site de l'Observatoire du nucléaire, c'est électrification plus nucléaire, le corps nul ment, puisque nous rappelle l'Observatoire du nucléaire, l'Institut pour la conception éco-responsable du bâtiment, donc ICEB, n'est peut-être pas la plus lourde structure du BTP, mais c'est assurément un des plus intelligents et lucides. Loin de se gargariser des annonces parfaitement stupides des ignorants Macron, Le Cornu et compagnie, l'ICEB exprime clairement en quoi la piste de l'électrification à marche forcée ne va pas faire avancer grand-chose, tout en coûtant terriblement cher aux finances publiques. Laure Noualat, héroïne écolo et réalisatrice d'excellents docs, explique dans Reporter « Ce qui est ignoré avec ces mesures, c'est toute une palette de solutions. » Les réseaux de chaleur, par exemple, qui sont une infrastructure lente, territoriale, moins spectaculaire politiquement, mais redoutablement efficace. La rénovation thermique, qui ne produit pas de kilowattheure, mais en efface, ce qui est encore plus subversif dans un récit fondé sur la production. Ce plan ne bouscule en rien nos usages, tout en les branchant sur une autre prise. Le gouvernement Le Cornul, comme l'appelle l'Observatoire du nucléaire, totalement illégitime et maintenu en place grâce à la collaboration du Parti Socialiste, profite de ces derniers mois pour prendre les décisions les plus nuisibles, relance du nucléaire, électrification absurde, destruction des services publics. Cette clique va délibérément laisser derrière elle un champ de ruines. Et puis, côté nouvelle encourageante, bien sûr, il y a les énergies renouvelables, donc toujours dans la revue de presse de l'Observatoire du nucléaire, qui revient sur un nouveau rapport de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, qui estime que les installations solaires et éoliennes couplées à des batteries peuvent désormais fournir une électricité pilotable à un coût inférieur à celui des nouvelles centrales fossiles, charbon et gaz. Le nucléaire n'est même pas évoqué tant il est hors-jeu car ruineux. Citation. L'électricité renouvelable, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, est désormais compétitive face aux combustibles fossiles, a déclaré Francesco Lacamera, qui est directeur général de l'IRENA, donc l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. L'argument historique selon lequel les renouvelables manqueraient de fiabilité ne tient plus. Aujourd'hui, elles peuvent fournir une électricité stable et continue. Pas de quoi instiller le moindre doute dans la rédaction du magazine réactionnaire Le Point, qui, faut-il le rappeler, soutient de toutes ses forces tout ce qui est nuisible, le nucléaire, les pesticides, les OGM, les mégabassines, etc. En effet, Le Point rend compte avec gourmandise d'une étude qui montre que le solaire et l'éolien que l'on présentait il y a 10 ans comme la promesse d'une électricité à la fois moins chère et plus abondante n'ont tenu ni l'un ni l'autre dans l'esprit des Français. Notez bien la nuance. Ce n'est pas dans la réalité que les énergies renouvelables ont failli. C'est, citation, dans l'esprit des Français. Ces derniers sont en effet assommés de reportages, articles et déclarations de dirigeants politiques et industriels dénigrant les renouvelables, mais pas par rapport à certains abus, agrivoltaïsme par exemple, juste pour promouvoir le nucléaire. Mais toutes ces finasseries ne changent pas le cours des événements sur la planète. La part du nucléaire est passée dans la production d'électricité, est passée sous les 9% et continue à baisser dans le monde. Celle des renouvelables a dépassé les 35% et monte de façon exponentielle. Et contre cette réalité, Le Point ne peut vraiment rien, nous dit l'Observatoire du nucléaire. Alors, peut-être je vais faire aussi un écho, puisqu'il nous reste un petit peu de temps, un journal, et en l'occurrence La Décroissance, un journal qui paraît tous les 2 mois. Le numéro de juillet-août 2026 est paru, et ce journal s'intitule le journal de la joie de vivre, et affiche un grand stop avec un point d'exclamation, avec un hamster dans sa roue qui lit un bouquin, qui s'arrête de pédaler et qui lit un bouquin de Jacques Ellul. Et dans ce numéro, eh bien, puisqu'on parlait du nucléaire, je vais poursuivre avec la chronique anti-nucléaire de Stéphane Lhomme, qui revient sur le fait qu'en Europe, l'impératrice Ursula von der Leyen aimerait relancer le nucléaire, tout comme les gouvernements français, mais cette industrie poursuit son déclin. L'Allemagne n'a aucunement l'intention de reconstruire des centrales. L'État belge en vient à racheter ses réacteurs délaissés. Et le parc atomique poursuit son vieillissement inexorable. Ces temps-ci, lorsqu'on évoque le nucléaire, on pense souvent à la capitale de la Belgique ou à celle de l'Union européenne, à savoir Bruxelles ou Bruxelles. Il est vrai qu'on a souvent le choix concernant cette belle ville, par exemple en chanson. Préférez-vous le Bruxelles de Brel, celui de Dick Annegarn, d'Angèle, de Boulevard des Airs ou encore bien d'autres. Concernant le nucléaire, le choix en ce moment est entre celui de Bart De Wever, nationaliste flamand de droite, et celui d'Ursula von der Leyen, ex-ministre allemande de la Défense, qui préside la Commission européenne depuis 2019. Deux options qui finalement se rejoignent dans la vénération de l'atome et de l'incompétence et du ridicule. Voyez un peu. Le 10 mars 2026, lors du sommet mondial du nucléaire, un titre bien clinquant pour un regroupement d'industriels aux abois, Madame von der Leyen a déclaré que c'était une erreur stratégique de la part de l'Europe de se détourner du nucléaire, une source fiable et abordable d'énergie à faible émission. Notons d'abord que la politique énergétique est censée être l'apanage de chaque pays de l'Union européenne. Il n'y a donc jamais eu de décision stratégique européenne ayant conduit le continent à se détourner du nucléaire. Certains pays ont abordé cette affaire de la façon la plus démocratique en consultant la population par référendum. Par exemple, le 5 novembre 1978, les Autrichiens ne font pas les autruches et votent à 50,5% contre le nucléaire et la mise en service de la première et dernière centrale du pays, pourtant flambant neuve. En Italie, un premier référendum est organisé le 8 novembre 1987 suite à la catastrophe de Tchernobyl. Le nucléaire est rejeté à plus de 72%. Début 2011, le premier ministre affairiste Berlusconi lance l'organisation d'un nouveau référendum pour inverser le résultat de 1987. Mais patatras, peu de temps avant le vote fixé au 13 juin 2011, se produit la catastrophe de Fukushima. Résultat, 94% contre le retour du nucléaire. Berlu en a eu la berlue. Dans d'autres pays, les populations n'ont été invitées qu'à célébrer les projets nucléaires lancés pour la plupart dans les années 70 et 80, à commencer bien sûr par la France. Aujourd'hui, les installations sont en fin de vie et la plupart des pays concernés ne veulent pas replonger dans le nucléaire, préférant démultiplier les centrales photovoltaïques et éoliennes. Il s'agit donc de sortie du nucléaire naturel à l'ancienneté, mais point de décision stratégique, à part en Allemagne, précisément le pays d'Ursula. La réplique de M. Merz, le premier ministre allemand, pourtant issu du même parti que Mme von der Leyen, ne s'est pas fait attendre. Citation, la sortie du nucléaire en Allemagne est achevée et irréversible. La présidente de la commission est rhabillée pour le printemps, l'été, l'automne et l'hiver qu'elle pourra passer à Bruxelles aux premières loges pour profiter des bêtises du premier ministre belge Bart De Wever. À peine arrivé aux affaires, ce dernier a décidé de racheter à Engie l'ensemble du parc nucléaire belge, soit 5 réacteurs arrêtés et 2 dont la durée de vie a été prolongée de justesse. Il faut dire qu'en toute lucidité, l'opérateur Engie a décidé d'arrêter le nucléaire, énergie archaïque et dépassée. En cassant sa tirelire, pourtant déjà bien déficitaire, le précédent gouvernement belge a réussi à obtenir une petite prolongation de la vie des 2 derniers réacteurs en activité. Mais pour Engie, ce sont clairement les derniers feux nucléaires et sa position est irréversible, comme en Allemagne. Alors ce cher De Wever a réfléchi et trouvé une solution lumineuse. L'État belge va racheter à grands frais tout le parc nucléaire d'Engie et s'en charger. Bart va-t-il revêtir lui-même le bleu de chauffe et exploiter les réacteurs, ou bien va-t-il les confier aux Chinois, aux Russes, aux Américains? Le tout au nom de l'indépendance énergétique de la Belgique, bien sûr. Il y aurait bien la solution de confier l'exploitation de ces réacteurs à EDF, mais cette dernière n'est pas du tout intéressée, déjà en très grande difficulté avec ses 54 vieux réacteurs en service en France, son EPR de Flamanville qui n'en finit plus de démarrer, et ses chantiers ruineux en Angleterre. Engie touche du bois, si De Wever mène à bien son projet absurde, l'opérateur sera débarrassé de ses 7 réacteurs à démanteler et des déchets radioactifs, et sera même payé pour l'ensemble de l'opération. Un véritable miracle. Pauvres citoyens belges traités comme de vulgaires français, condamnés à payer sans discuter des sommes astronomiques pour continuer à s'enfoncer dans l'impasse nucléaire. Comme le chant de Boulevard Désert, il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore, il y a ceux et il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Tout un programme pour Bart et Ursula. Et puis, terminer, je souhaitais vous lire aussi l'éditorial de ce numéro de juillet-août 2026 de La Décroissance, en vente dans les kiosques. Alors vous pourrez le trouver au milieu de... Enfin, c'est bien caché, hein, derrière les boissons sucrées, les paquets de cigarettes et puis la malbouffe. Il y a encore quelques kiosques qui vendent des journaux, mais on sent que... C'est vraiment limite. C'est un peu de cynisme de ma part, mais c'est effectivement un constat de ce qu'on a pu voir, en tout cas de l'évolution extrêmement défavorable de la presse papier, qui doit continuer à être achetée, qui est une presse qui s'expose, qui est... échangeable, qui peut aussi, en tout cas qui du point de vue énergétique, eh bien, ne repose pas sur l'accès à des serveurs, sur des métaux rares. En tout cas, vive la presse écrite et vive la presse évidemment sans publicité comme Radio Libertaire. Alors pour introduire ce numéro, cet édito de Pierre Thiesset, qui répond à une question, hein, sur quoi vous planchez pour votre prochain numéro? Sur un dossier sur le manque de temps? Tu es bien placé pour en parler, toi qui es tout le temps en retard, qui n'arrive pas à te dépêtrer de tes piles de livres à lire, qui stresse et n'est pas disponible le dimanche, parce qu'il y a le bouclage de la décroissance. Voilà comment m'a raillé une personne qui me connaît bien. Elle n'a pas tort, hélas. C'est une expérience largement commune dont nous ne sommes pas exempts. Tout le monde a l'impression de courir après le temps. En cause, les contraintes du travail, les échéances à tenir, la pression des horaires, la course à la productivité, mais aussi le temps de transport qui peut engloutir des heures chaque jour. La vitesse n'a fait qu'allonger les distances quotidiennes à parcourir. L'automobile et les infrastructures de circulation rapide apparaissent comme un monstre chronophage auquel toute la société consacre un lourd budget temps. Pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Dupuis et Jean Robert dans La trahison de l'opulence, un ouvrage sorti en 1976. Mais encore, les loisirs organisés tout aussi frénétiques et l'emprise médiatique, le temps de cerveau disponible n'ayant jamais été autant accaparé par les écrans. Même les autorités s'inquiètent de la surcharge informationnelle et de l'épuisement qui nous gagne, si bien que le gouvernement nous alerte sur la très forte diminution du temps de sommeil et a pondu une application Jardin Mental pour sensibiliser les homo electronicus à l'importance du repos. Voilà le grand paradoxe de notre société obsédée par l'efficacité. Alors que tout est fait pour gagner du temps, nous en manquons de plus en plus et sommes pris dans un état d'urgence permanent. La principale explication de ce règne de l'urgence est de nature à la fois économique et technologique, analyse Nicole Aubert dans son livre « Le culte de l'urgence, la société malade du temps », paru chez Flammarion, et c'est en 2003. Un nouveau type d'individu est apparu, de moins en moins capable de différer, pris par l'immédiateté des télécommunications, le déferlement incessant d'images, la consommation instantanée, le fonctionnement à flux tendu d'une économie où les échanges boursiers se font en une fraction de seconde et où l'écoulement des marchandises doit sans cesse s'intensifier. Au cœur de cette compulsion à l'accélération se trouve évidemment la quête perpétuelle de croissance, comme l'explique Hartmut Rosa, auteur de référence sur ce sujet. Nos sociétés sont vouées à accélérer puisque nos économies sont fondées sur la croissance. Qu'est-ce que la croissance ? L'augmentation du produit intérieur brut d'une année sur l'autre. Or, pour produire plus dans la même unité de temps, il n'y a qu'une solution, à population égale, il faut aller plus vite. Nous sommes donc pris, malgré nous, dans ce régime temporel démentiel, emportés dans un ouragan perpétuel. La pression devient intenable, la surchauffe écologique en témoigne, tout comme l'état psychique de la population et l'épidémie actuelle de dépression. Face à cette saturation générale, l'aspiration à décélérer est largement partagée. Une abondante littérature vient d'ailleurs prodiguer ses conseils pour apprendre à ralentir. Mais il ne suffira pas d'appliquer ces recettes de développement personnel pour reconquérir le temps. Si celui-ci nous manque, c'est bien que nous sommes dépossédés de nos journées, étrangers à nous-mêmes. Toute une vie quotidienne aliénée est donc à remettre en cause, non seulement la subordination au travail et à la croissance, mais aussi l'industrie du divertissement qui nous assaille, les futilités qui dévorent nos heures, le trop-plein de marchandises, l'enfermement dans des macro-systèmes techniques comme les réseaux de transport et de télécommunications qui synchronisent rigoureusement notre société. Alors pourrons-nous suivre les enseignements de Sénèque ? Revendique la possession de toi-même. Ton temps jusqu'à présent, on te le prenait, on te le dérobait, il t'échappait. Récupère-le et prends-en soin. Bon été, conclut l'article de Pierre Thiesset. Et voilà, eh bien moi je vous souhaite pour cet été, en tout cas pour ce mois de juillet, quand on va sans doute se retrouver début août, eh bien de profiter de ce temps avec un ralentissement de la méga-machine économique, en tout cas un léger ralentissement, de profiter de ce temps libre pour lire, réfléchir, se reposer et aborder la rentrée sous d'autres sous un autre angle. En tout cas, c'est tout ce qu'on peut se souhaiter. L'émission Les Mangeux de Terre touche à sa fin. On va se quitter avec un morceau de téléphone, une fois n'est pas coutume. Et on se retrouve le premier lundi du mois d'août à 18h, comme d'habitude, tous les premiers lundis du mois. Bon mois à vous et à bientôt.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé de regarder comme ça la vie passer, assis à la terrasse d'un café ou en marchant tout seul dans ton quartier? Le silence dans la tête et le bruit au dehors, au dehors. Mes pieds contre les pavés, mon cœur contre les nuits glacées. Je file tout au bord du trottoir. Je suis un funambule dans le noir. Non, non. putain d'hiver. Moi je m'en fous, j'ai besoin d'air. D'un espace où tout reste à faire.
pleurer, les bras de se tendre, dont la mer n'a pas cessé de descendre. Il faut de l'eau pour éteindre les cendres, et le vent n'a pas cessé de gémir dans la gorge de celui qui va mourir, dont le vent n'a pas cessé de me dire. Y a plus rien dans le filet que tu tires, alors le mal n'a pas cessé de grandir. Le jour de tomber, le ciel noircir. Maintenant y a trop d'eau, je veux plus revenir. Ma mère me pousse, ma mère me tire. Oui, y a trop d'eau.